l'atelier du pouvoir.
Il est très important que l'exercice du pouvoir politique se voit interrogé par des gens qui posent la question, mais qu'est-ce qui vous légitime ?
Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue.
Je rêve tout simplement d'un pays ambitieux.
La France.
Dont tous les habitants redécouvrent le sens du dialogue.
C'est pas la gauche.
Pourquoi pas de la fête ?
La France.
Et de la liberté.
C'est pas la droite. La France.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, tonight is your answer.
La politique, dans une démocratie, c'est l'honnêteté et le respect de l'autre. La fin ne saurait en aucun cas justifier les moyens.
L'atelier du pouvoir, Vincent Martini, Thomas Vider.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Vincent Martini.
Bonjour Thomas Vider, bonjour à tous.
Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel Atelier du Pouvoir, l'émission qui chaque samedi de 12h50 à 13h30 sur France Culture vous emmène dans les coulisses de la vie politique, à la découverte de son histoire, de ses institutions, de ses figures, de ses métiers aussi. Alors parmi ces métiers, justement, en voilà un dont tout le monde a entendu parler, mais dont personne ne sait exactement en quoi il consiste. Et c'est normal, puisque sa raison d'être est justement sa discrétion. Ce métier, c'est celui de secrétaire général de la présidence de la République. Un métier, plutôt disons une fonction, qu'ils sont une vingtaine seulement à avoir occupé depuis la naissance de la Ve République en 1958. Une fonction essentielle, puisque le secrétaire général est le principal collaborateur du chef de l'État, mais dont les Français ignorent généralement tout, à une exception près, celle de son visage, que l'on aperçoit de temps à autre sur le perron de l'Élysée quand il vient annoncer la composition d'un nouveau gouvernement, mon cher Vincent.
Oui Thomas, ce visage austère qui égrène les noms de ceux à qui la destinée de la France va être confiée pour quelques années, quelques mois ou parfois quelques semaines, c'est en effet celui du secrétaire général, cet inconnu de l'Élysée. De lui, vous le disiez, on ne sait quasiment rien, ni de ses attributions, pas clairement définies en réalité, ni du profil type pour parvenir à cette fonction. Il semblerait cependant qu'un parcours à Sciences Po et à l'ENA soit des sésames utiles, voire indispensables. On pourrait être tenté de voir dans le secrétaire général un haut fonctionnaire superintendant de la maison Élysée, se contentant de gérer le personnel de la maison et de signer des parapheurs au contenu opaque et insignifiant. Ce serait se tromper lourdement sur cette fonction. Véritable sentinelle du président, le secrétaire général de l'Élysée joue en réalité un rôle clé dans le dispositif présidentiel. Collaborateur politique le plus proche du président, maître des contraintes administratives, numéro 2 dans le cercle restreint du pouvoir élyséen, le SG, comme on l'appelle, entouré de ses adjoints, incarne à la fois la pérennité de l'État et le lien entre politique et administration. Si tous n'ont pas fait ensuite de politique active, nombre d'entre eux ont continué de jouer un rôle éminent dans notre vie publique. Jean-Louis Bianco est devenu député, Philippe Bas sénateur, Claude Guéant ou Hubert Védrine ministre, et Édouard Balladur ou Dominique de Villepin ont même été nommés Premier ministre. Et quoi qu'il leur soit arrivé, quasiment tous ont conservé une fidélité sans faille au président qu'ils ont servi. Alors à quoi servent les secrétaires généraux de l'Élysée? Quels sont leurs pouvoirs? Leurs attributions, leurs rôles ont-ils évolué dans le temps? Comment accède-t-on à cette fonction? Mais aussi, comment vit-on après? Ce sont toutes les questions qu'on évoque aujourd'hui avec nos invités, dont deux anciens secrétaires généraux de l'Élysée, dans cette nouvelle édition de l'Atelier du Pouvoir consacrée au rôle de ces sentinelles du président que sont les secrétaires généraux de l'Élysée.
Claude-Pierre Brossolette et Philippe Bas sont effectivement les deux anciens secrétaires généraux de l'Élysée qui sont parmi nous. Claude-Pierre Brossolette de 1974 à 1976, c'était aux côtés de Valéry Giscard d'Estaing, et Philippe Bas plus récemment de 2002 à 2005 aux côtés de Jacques Chirac. Avec nous également Romain Bongibaud, auteur d'un livre tout récent, Dans l'ombre des présidents, paru il y a quelques semaines chez Fayard, un livre coécrit avec César Armand et précisément consacré à l'histoire des secrétaires généraux de l'Élysée. Et puis enfin, une grande spécialiste de l'histoire de la haute administration, Françoise Dreyfus, professeure émérite de sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Je vais vous donner la composition du gouvernement telle qu'elle résulte du réaménagement technique annoncé hier matin par le président de la République. Monsieur Jacques Chirac, Premier ministre. Monsieur Michel Poniatowski, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur Jean Le Canuet, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Jean Sauvagnargues, ministre des Affaires étrangères. Monsieur Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur Yvon Bourges, ministre de la Défense.
Bonjour, Claude-Pierre Brossolette.
Bonjour.
Vous vous reconnaissez ?
Pas du tout.
Eh bien, c'est vous. Le 12 janvier 1976,
oui.
Un remaniement technique dans le
oui.
Premier gouvernement de Jacques Chirac. Je disais que vous aviez été le premier secrétaire général sous Valéry Giscard d'Estaing. Première question que je voudrais vous poser, c'est comment est-ce que vous êtes devenu secrétaire général ? Vous étiez un intime du président Giscard d'Estaing ?
J'étais très proche de M. Valéry Giscard d'Estaing. Il était de la promotion de l'ENA précédant la mienne. Je l'ai connu à cette époque-là. Et je l'ai connu, ma femme a connu Mme Giscard d'Estaing et nous avions les enfants de même âge. Et j'étais donc un ami assez ouvert. Et surtout, quand j'étais au cabinet de M. Baumgartner, et que M. Giscard d'Estaing était un jeune secrétaire d'État aux finances, Monsieur Baumgartner, qui aurait dû aller à Bruxelles pour les questions européennes, n'aimait pas faire cela. Et Monsieur Giscard d'Estaing était tout disposé à aller parler avec ses collègues à Bruxelles. Et Monsieur Baumgartner m'a demandé de suivre et de, en quelque sorte, de contrôler Monsieur Giscard d'Estaing, qui était un secrétaire d'État.
Et moi, c'est comme ça que vous vous êtes rapprochés, que vous avez travaillé
oui,
avec lui.
On a parlé. Alors, nous parlions beaucoup. Je suis pas un homme politique. Je ne mens jamais. J'essaye toujours de dire la vérité et de ce que je pense sur les choses. J'ai constaté assez agréable à Monsieur Giscard d'Estaing, qui est beaucoup plus fermé. Qui ne me disait pas exactement ce qu'il allait faire, etc. Mais moi, je lui disais toujours mon opinion sur ce que je pensais.
Philippe Bas, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vient d'entendre un de vos prédécesseurs au poste de secrétaire général de l'Élysée. Pour votre part, vous avez occupé cette fonction auprès de Jacques Chirac quelques décennies plus tard. Est-ce que vous diriez de la même manière que Claude-Pierre Brossolette, j'étais un ami de Jacques Chirac et c'est pour ça que je suis devenu secrétaire général de l'Élysée ? Ou est-ce que vos relations étaient un peu différentes de celles qu'on vient d'entendre ?
J'ai écouté Claude-Pierre Brossolette. Moi, je suis devenu un homme politique et j'ajoute, je ne mens jamais. Je fais comme lui. C'est possible.
Ça vous fait un point commun.
Oui. Alors, moi, je ne connaissais pas Jacques Chirac. J'avais été le plus proche collaborateur de Jacques Barrot, grand ministre démocrate chrétien du travail et des affaires sociales. Et avant, j'avais été le numéro 2 de l'équipe de Simone Veil. Et quand j'ai été pris à l'Élysée, à ma propre surprise, mais j'ai été pris parce que le président de la République avait besoin d'un conseiller social et il lui a semblé à l'époque que je remplissais les conditions. Et c'est à partir de là que, de manière pour moi un peu inattendue, la confiance s'est créée. Je me suis senti beaucoup d'affinités intellectuelles dans mes réactions avec le président de la République et sans doute que ça a été la raison pour laquelle je suis devenu progressivement secrétaire général adjoint puis secrétaire général de l'Élysée en 2002, c'est-à-dire
juste après
Monsieur
le 21 avril.
Pierre Brossolette, 30 ans après vous. Alors, c'est le même titre. C'est pas le même président, encore que vous l'ayez connu comme Premier ministre. Mmh. Est-ce que c'est la même fonction ?
Ah ben justement.
Je crois que nos échanges vont permettre peut-être de le déterminer.
Avant de répondre à cette question, Françoise Dreyfus, on a là deux hommes de deux générations différentes. Est-ce que vous diriez qu'il y a quand même un portrait type du secrétaire général de l'Élysée dans le pédigré, dans le curriculum vitae, ou pas ? Ou c'est très varié ?
Je pense qu'il y a forcément quelques différences, mais qu'en même temps, il y a tout de même un profil qui a pas mal de points communs. Si on reprend les premiers secrétaires généraux de l'Élysée depuis l'avènement de la Ve République, on constate effectivement que ce sont des grands commis de l'État, que ce sont effectivement des énarques, des conseillers d'État. De manière générale, ce sont effectivement des très hauts fonctionnaires. Ce qui est très important d'ailleurs, dans la mesure où le rôle du secrétaire général sera, est, d'être, de mon point de vue, le chef d'orchestre d'une équipe qui est l'ensemble des conseillers du président.
Qui sont combien environ? Une vingtaine?
Alors ça, c'est très variable. Je relisais avant de venir les mémoires d'espoir du général de Gaulle et il donnait la liste de des membres de son secrétariat général et c'était 20. Aujourd'hui, c'est plutôt 50. Et ça a été, notamment sous Sarkozy, beaucoup, beaucoup plus.
Vraiment, en deux mots pour nos auditeurs, Philippe Bas, combien de collaborateurs, quand vous êtes secrétaire général à l'Élysée, autour du président de la République, en moyenne?
Je pense une vingtaine.
Une vingtaine. Claude-Pierre Bossolette?
16.
16.
D'accord. Robin Bongibaud, sur cette question du profil, est-ce que... vous confirmez ce que dit Françoise Dreyfus, vous vouliez compléter. Il y a quelques exceptions, on pense par exemple à Bérégovoire, hein, qui était une exception, peut-être
je
unique.
Pense que ça sera l'unique exception, d'ailleurs, lui-même au départ avait refusé, puisqu'il pensait que c'était un simple rôle de secrétaire. Donc c'est ce que nous racontait Mme Cresson quand nous l'avons interviewé.
Pour le livre. Ouais,
au départ, il pensait que c'était un rôle de secrétariat et donc il avait refusé le poste. Mais c'est vrai que nous, on était partis de ce constat-là que de Mme Dreyfus, c'est qu'en fait, on s'était amusé à faire cette petite annonce si jamais un chef d'État devait passer l'annonce pour chercher le poste. Et c'est vrai que ce qui revenait fréquemment, c'était effectivement aux fonctionnaires, énarques, on va dire la quarantaine, pour trouver ce...
Est-ce que ce sont des postes, est-ce que ce sont des postes quand même politiques? Je veux dire, est-ce que vous, Claude-Pierre Brossolette, vous disiez que vous étiez un ami de Giscard d'Estaing, mais vous n'étiez pas un militant des Républicains indépendants. C'est pas vraiment votre famille politique.
Je m'étais bizarrement présenté à une élection à Sarcelles. C'est après l'été 68. Et comme j'aimais bien Monsieur Giscard d'Estaing, je pensais qu'il y aurait un raz-de-marée politique gaulliste, et que mon ami le plus proche, mettons politiquement, était M. Giscard d'Estaing. Donc j'ai bavardé avec Michel Poniatowski en lui disant, si tu as dans la région parisienne un endroit où le communiste sera élu, et moi ne risquerai aucun danger politique, j'irai.
Alors Philippe Bas, vous avez dit que vous êtes devenu un homme politique, on va en parler de ça tout à l'heure, ce que deviennent les secrétaires généraux de l'Élysée, mais je crois qu'il faudrait revenir pour nos auditeurs, maintenant qu'on a dit qu'il y a un profil pour devenir secrétaire général de l'Élysée, concrètement, à quoi ça sert un secrétaire général de l'Élysée? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Quelles sont vos missions en tant que secrétaire général auprès de Jacques Chirac, entre 2002 et 2005?
Il y a une partie visible. Le pouvoir s'exerce les jours ouvrables pendant les heures de service.
C'est-à-dire?
Il y a une certaine banalité de l'exercice du pouvoir.
Inévitablement.
Mais à côté de cela, le secrétaire général de l'Élysée, c'est un homme en qui le président de la République a confiance et qui a la capacité de convaincre le président de la République. La différence avec un ministre, c'est que le secrétaire général de l'Élysée, il a un droit de regard beaucoup plus large sur toutes les affaires de l'État, forcément. Mais le ministre, lui, il doit assumer directement sa responsabilité.
Mais par rapport, par exemple, au directeur de cabinet du président de la République, quand on est secrétaire général, quelle est la différence?
Alors, Claude-Pierre Brossolette dira quelle était l'organisation du temps du président Giscard d'Estaing, mais pour moi, c'était très clair. Le directeur du cabinet était, lui, le gestionnaire de la maison. Il était le responsable, en réalité, de la gestion de la carrière du corps préfectoral, du point de vue de l'Élysée, et il avait un œil attentif aux questions de sécurité publique.
Et le secrétaire général?
Et le secrétaire général était en réalité un trait d'union, il n'en avait pas le monopole, entre le président de la République et le gouvernement pour la mise en œuvre des choix du président de la République, et il devait donc veiller à ce que la politique du chef de l'État soit appliquée. Il devait aussi veiller à quelque chose d'assez singulier, pardon, c'est que le chef de l'État n'est pas simplement le patron de l'État, il est le représentant des Français face à l'État. Et tout ce qui remonte du gouvernement, ça c'est l'État. Mais il faut aller chercher aussi ce qui remonte de la société. Et donc l'équipe que le président a constituée autour de son secrétaire général, elle doit toujours avoir ce double regard. Le regard de l'État, mais aussi le regard des Français.
Alors on va écouter un autre ancien secrétaire général qui
développe un peu ce que vous venez de dire, Philippe Bas, avec cette idée justement d'informer aussi le président. C'est très important de lui faire remonter un certain nombre d'informations. C'est Hubert Védrine qui était secrétaire général de 1991 à 1995, aux côtés de François Mitterrand.
Il faut drainer sans arrêt tout ce qu'on peut trouver en France ou ailleurs et qui apporte une information meilleure, plus complète, plus fiable, plus recoupée. Et en même temps, et c'est là où on se rapproche un petit peu de la décision, sans que ce soit la décision proprement dite, plus pertinente par rapport à la prise de décision. Et c'est là où est le métier, si je puis dire, de conseiller. Il faut sentir dans tout ça, et quand on est secrétaire général, il faut animer chez les autres conseillers ce type de recherche et développer cette forme d'esprit. Il faut sentir ce qui va permettre aux décideurs de prendre la décision avec le plus d'éléments possible. C'est ça l'essence même de la fonction. Alors ça suppose une bonne compréhension personnelle de ce qu'est la décision, même si ce n'est pas vous qui prenez la décision finale, pour pouvoir en présenter les éléments. On peut faire ceci, avantage, inconvénient. On peut également faire autrement, avantage, inconvénient. Si on poursuit tel objectif, on peut faire ceci ou cela. Si en revanche on raisonne autrement, on peut s'y prendre de telle ou telle façon. Il faut sans arrêt ouvrir les options, ne pas les biaiser, en fait, parce que la liberté du décideur doit rester complète.
Hubert Védrine, ancien secrétaire général de l'Élysée entre 91 et 95 sous la présidence de François Mitterrand. C'était le 11 décembre 1994 sur France Culture, l'émission Le Rendez-vous des politiques. Françoise Dreyfus, quand vous entendez différents interlocuteurs, Philippe Bas, Hubert Védrine, parler du rôle du secrétaire général, qu'est-ce que vous pourriez-vous en dire en tant qu'universitaire spécialiste de la haute fonction publique? On a dit que c'est quelqu'un qui informe, mais ce qu'on peut-être nos interlocuteurs, nos auditeurs ont du mal à comprendre, c'est est-ce que c'est un rôle politique ou c'est un rôle de la haute fonction publique ou est-ce que c'est les deux?
Ce sont les deux. Ce sont les deux parce que, encore une fois, le secrétaire général de la présidence de la République, d'une certaine manière, est la tour de contrôle. Il est la tour de contrôle de ce qui se passe, bien sûr, dans son équipe, mais il est aussi une tour de contrôle par rapport au gouvernement, puisque c'est lui qui est en lien avec Matignon, c'est aussi lui qui est en lien avec le SGG, avec le secrétaire général du gouvernement, notamment pour la préparation des conseils des ministres.
Donc, et tour de contrôle, tout simplement, c'est quelqu'un qui répartit le travail qui...
Non. Oui, il le répartit certainement. Mais c'est beaucoup plus que cela. Dans la mesure où, effectivement, le secrétaire général de la présidence de la République a, comme cela a déjà été dit, toute la confiance du président. Sinon, c'est un couple qui ne peut absolument pas fonctionner. Et cette confiance signifie que effectivement le secrétaire général peut dire, si possible, tout ce qu'il a à dire à son interlocuteur, le président, mais c'est aussi lui qui va transmettre notamment auprès du gouvernement un certain nombre d'éléments. Et comme cela a déjà été dit, beaucoup de choses doivent remonter auprès de lui. Et ça, c'est un point tout à fait fondamental. Et c'est de ce point de vue-là que je dis que c'est un peu une tour de contrôle.
Quelques questions avec des réponses assez courtes, Romain Bongibaud, pour qu'on puisse saisir ce métier. Le secrétaire général de l'Élysée, on dit que souvent, enfin, c'est des rendez-vous de la semaine, c'est le Conseil des ministres. Hein, il assiste au Conseil des ministres.
Avec le secrétaire général du gouvernement. Effectivement, ils prennent que des notes, on va dire.
Est-ce qu'il y a d'autres comme ça, d'autres rendez-vous dans la semaine d'un secrétaire général qui compte où il doit être parce que ce sont des rendez-vous du fonctionnement de la vie de l'État ou pas?
Je pense que les anciens secrétaires généraux sont plus à même de le dire, mais je pense qu'effectivement, ils sont là aussi, ce que je pense notamment à une anecdote que nous avait racontée Monsieur Pierre Brossolette dans le livre, c'est-à-dire qu'ils sont aussi là pour faire barrage ou tampon sur certains indésirables. Donc je pense notamment à, vous nous aviez raconté une anecdote avec un ambassadeur russe qui trépidait.
Racontez-nous ça, Claude Pierre Brossolette. De quoi s'agit-il?
À peine installé à l'Élysée, l'ambassadeur russe de l'époque s'est précipité et avait demandé à me voir. Et surtout, il a demandé à être reçu par le président de la République. Alors, je lui dis, écoutez, nous on est arrivés, il y a bien le temps, mais j'ai eu une lettre de M. Brejnev pour le président de la République. Je lui dis, écoutez, donnez-moi la lettre, je la donnerai au président. Puis je l'ai mis à la porte, et puis j'ai donné la lettre au président de la République, il a lu, il n'y avait pas grand-chose dedans que de... Et il est revenu quelques jours après, Et finalement, je lui dis, écoutez, je ne veux plus vous voir.
C'est un peu un rôle, dans ces cas-là, on pourrait dire quoi, de grand chambellan? On aurait dit ça dans
filtre.
Parce que responsable de la maison du roi, on aurait dit dans l'ancien régime, non?
Pour dire à l'ambassadeur soviétique que je ne voulais plus le voir, je ne voulais pas être seul, parce qu'il avait un petit bonhomme du KGB avec lui, tout le temps. Et donc, alors je leur ai dit, c'est fini, il y a un ministre des Affaires étrangères, allez le voir quand c'est nécessaire, etc.
Romain Bongibaud, entre le début des années 60, début de la 5e République, et puis les années Hollande, 50 ans après, quand vous avez fait ce livre, est-ce que vous avez eu l'impression que cette fonction, elle évoluait ou pas tant que ça? Par exemple, qu'est-ce que vous avez vu comme différence dans la façon de... Est-ce que des présidents de la République qui ont eu des approches très différentes de leur...
Je pense qu'il y a une approche très différente. François de Combray le définit très bien, par exemple, pour la présidence de Giscard en trois temps. Il y a eu trois présidences en tant que trois secrétaires généraux. Après, effectivement, avec Mitterrand, nous avons un cas à part, puisque nous avons Jean-Louis Bianco qui a été nommé à 39 ans et qui est resté pendant 9 ans. Donc c'est quand même un cas à signaler. Même si avant, vous avez cité tout à l'heure Pierre Bérégovoy qui l'a été pendant un an. Et ensuite, c'est suivi Hubert Védrine qui l'a été, on va dire. Donc c'est vrai que c'était un peu la
longévité n'est pas la même non plus.
Et puis après il y a le côté plus familial qui arrive avec Jacques Chirac, où on se rend compte avec Dominique de Villepin, Philippe Bas et ensuite Frédéric Salabarou, où il y a une thématique plus sur l'approche vraiment de travail d'équipe. Je pense que c'était vraiment une approche plus familiale par rapport à celle de Mitterrand qui était plus Machiavel et qui...
Écoutez, il y a quand
Monsieur
même
Bonsonnette.
Une fonction centrale du secrétaire général qui voit son patron tous les jours. Ouais. Deuxièmement, le secrétaire général s'occupe des 10 ou 12 ou 15 ou 20, ça dépend de l'équipe, qui ne voit pas toujours facilement le président et qu'on est obligé de protéger en quelque sorte et de leur rappeler tout le temps qu'ils n'ont pas le droit de dire le président a dit ceci, il a parlé de cela, etc.
Philippe Bas, quand on entend Claude-Pierre Brossolette parler de la relation aussi avec le président, il y a un rôle qui est le rôle d'organisation de la maison du président, de l'agenda, de ses déplacements, mais aussi de toute son équipe avec le cabinet, en relation avec le cabinet, mais il y a aussi une relation particulière avec le président. Comment est-ce que vous définiriez, vous, à l'époque, votre relation avec le président? Alors, j'imagine de confiance, ça va sans dire, mais au-delà de ça, quelle est la différence entre vous, dans votre relation avec le président, avec votre prédécesseur, par exemple Dominique de Villepin? Est-ce que vous pensez qu'il y a autant de secrétaires généraux qui a de relations avec le président, ou est-ce qu'il y a quand même des caractères types d'une relation secrétaire général-président?
Il n'échappe à personne que je ne ressemble pas du tout à Dominique de Villepin. Et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai été choisi. Le président de la République venait d'être réélu, et il s'agissait maintenant de rentrer dans l'atmosphère après 5 années de cohabitation et peut-être pas à ce moment-là de s'élever dans la stratosphère. Donc moi j'ai vraiment eu le sentiment que ma relation avec le président de la République était suffisamment confiante pour qu'il me permette de prendre à mon initiative un certain nombre de décisions qui, de mon point de vue, ne méritaient pas d'être porté quotidiennement à son attention, mais qui allait dans le sens de ses directives générales. Et je le débarrassais ainsi, en étant à mon niveau un peu son double et en engageant son autorité. Ce qui est une mission extrêmement délicate, parce qu'imaginez-vous que si j'avais débordé de cette confiance, le président de la République, à juste titre, ne l'aurait pas toléré. Et donc, tout mon travail consistait à trouver le bon équilibre entre ce que je devais rapporter au président et ce que je devais prendre sur moi de faire de ma propre initiative.
Alors voilà justement une transition parfaite avec une archive sonore qu'on souhaitait vous faire écouter. C'est une archive sonore de l'un de vos lointains prédécesseurs, Étienne Burin-Desrosiers, qui évoque son rôle de secrétaire général aux côtés du général de Gaulle. C'était au micro de Gilles Lapouche dans Agora, toujours sur France Culture, le 6 février 1986.
Le général de Gaulle avait une conception très ferme de la façon dont il fallait servir l'État. Dans l'État, chacun a sa place. Le président de la République a la première, le premier ministre a une place considérable, chaque ministre a sa place. Les hauts fonctionnaires ont au service de l'État la place que l'État leur a assignée. Et les gens qui constituaient ce qu'il appelait sa maison avaient certainement des responsabilités, mais des responsabilités qui se situaient en marge, en quelque sorte, de l'action politique proprement dite. le général considérait qu'il y avait dans la maison ceux qui avaient en charge ce qui concernait ses rapports avec la nation. C'était son cabinet, proprement dit, qui était chargé d'organiser ses audiences, du service de presse, etc. Et puis, il y avait le secrétaire général qui avait en charge la marche des affaires de l'État. Et mon rôle consistait, assisté de mes collaborateurs, de lui présenter les décisions à prendre, de l'informer sur l'ordre du jour des conseils des ministres ou des conseils interministériels, d'une façon générale, de le tenir au courant de la marche des affaires. Mais ça n'allait pas beaucoup plus loin.
Claude-Pierre Brossolette, vous qui avez été secrétaire général de Valéry Giscard d'Estaing entre 1974 et 1976, est-ce que vous vous retrouvez dans ces paroles de votre prédécesseur à ce poste ?
Oh, tout à fait. Écoutez, je voudrais vous dire un peu ce que je faisais et ce que je ne faisais pas. Ce que je ne faisais pas, c'est de voir les journalistes. Ce que je faisais pour certaines personnalités, pas naturellement mon ambassadeur russe, mais l'ambassadeur du Japon venait de temps en temps bavarder, et l'ambassadeur d'Angleterre, qui, ils sont d'ailleurs russes honorés, venait bavarder tranquillement. En dehors de cela, venaient me voir certains secrétaires d'État ou même des ministres qui étaient plus proches de M. Giscard d'Estaing que de Jacques Chirac. Et alors, je recevais les secrétaires d'État, mettons, giscardiens, et qui étaient moins bien vus ou reçus par Matignon, quoi. Il y avait quand même...
Alors, de mon temps, c'était plus économique, Philippe, écuménique, puisque je recevais naturellement des proches de Jacques Chirac, mais aussi des proches de Valéry Giscard d'Estaing, parmi lesquels le Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin. Et il y avait, mais c'était l'époque de la réunion des deux grandes familles de la droite et du centre.
C'était la naissance de l'UMP. C'était...
Voilà. Et donc, nous étions rentrés là dans une ère nouvelle qui nous permettait, pour le fonctionnement de l'État, je crois que c'était tout de même meilleur, d'assurer un fonctionnement gouvernemental n'était pas trop perturbé par des compétitions politiques internes à la majorité.
Conflit. Françoise Dreyfus, vous voulez dire un mot ?
Oui, je suis très frappée par ce qui vient d'être dit à propos de « je ne parlais pas aux journalistes », car je pense que cette règle a été absolument respectée, sauf par un seul, qui est M. Guéant.
Secrétaire général de
secrétaire général
Nicolas Sarkozy,
au début de son mandat. Et qui, contre toute, de mon point de vue, contre toutes les règles de déontologie de la fonction, n'a jamais cessé de s'exprimer en disant, bien sûr, moi, Sarkozy. Et ceci me semble un vrai problème.
Romain Bangibault, dans le livre que vous avez écrit avec César Armand, dans l'ombre des présidents, justement, on parle de cette exception Claude Guéant, ce rapport aux médias qui était tout à fait différent. Il a été aussi concerté avec le président de l'époque.
Ce qui a frappé tout le monde, c'était le premier secrétaire général qu'on voit à la télé, qui a fait donc le 20h. Et donc, c'est vrai que les autres étaient plutôt, comme on disait, vous l'aviez dit au début de l'émission, inconnus. On connaît juste son visage parce qu'on les voit sur le perron de l'Élysée annoncer le gouvernement. Mais sinon, qu'est-ce qu'ils font le reste du temps? On ne sait pas. Donc, c'est vrai que Claude Guéant, pour ça, a cassé les tabous, on va dire, mais comme vous le rappelez, c'est que c'était à la demande du président.
Est-ce que ça change quelque chose, Philippe Bas, cette exposition dans les médias, au rôle du secrétaire général dans la politique partisane ? Est-ce que ça faisait de Claude Guéant, beaucoup plus clairement, un collaborateur politique du président que c'était le cas dans les temps précédents ?
Je crois qu'on est en train de parler d'une exception qui n'a été que temporaire, et qui est une exception malheureuse. Et je pense que le président Sarkozy l'a lui-même reconnu. D'ailleurs, le successeur de Claude Guéant ne s'est jamais exprimé publiquement. Maintenant, l'époque a changé. Le président de la République est en première ligne. On attend de lui qu'il prenne les devants et matérialise par sa présence la responsabilité qu'il exerce. Ce qui explique peut-être l'erreur qui a été faite en 2007 quand le secrétaire général a été mis en avant. Mais je retiens de cette évolution qu'il est nécessaire, à défaut que le secrétaire général s'exprime publiquement, que le secrétaire général puisse décrypter l'action du président de la République et qu'il puisse, de cette façon, même si c'est comme on dit off, communiquer pour expliquer. Car S'il n'explique pas lui-même, d'autres le feront à sa place. Vous connaissez les journalistes. Leur travail consiste quand même à rechercher des interlocuteurs aussi bien informés que possible. Et si le mieux informé ne parle pas, ce seront de moins bien informés qui parleront à sa place. Et ça n'est pas bon pour le président de la République.
Claude-Pierre Brossolette, un petit souvenir personnel. Quel a été, dans les deux années que vous avez passées auprès de Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée, pour vous, le souvenir le plus pénible, le moment le plus tendu?
Ça n'a jamais été le cas. Il m'est arrivé d'être dans une situation un petit peu délicate. On peut parler de cela. Un vendredi soir, j'étais encore à l'Élysée, vers 8h30, 9h. Tout le monde était parti et je reçois un coup de téléphone du gouverneur de Djibouti. Le gouverneur. Le gouverneur me dit, monsieur, enfin je trouve quelqu'un à Paris. J'ai téléphoné au ministère de la, je sais pas trop quoi, de la coopération, etc. Et il n'y a personne. Ben, je lui ai dit, écoutez, il n'y a personne non plus. Je suis le secrétaire général de l'Élysée. Je ne suis pas un ministre. Je ne suis pas, etc. Mais il me dit, mais monsieur, c'est très grave. Il y a des émeutes dans la ville. Ma mission va se terminer. Et le monsieur qui va être élu est en prison. Et je suis très ennuyé. Je ne peux pas le lâcher comme ça, etc. Et qu'est-ce que je peux faire? Ben, je lui ai dit, écoutez, quelles sont les deux ou trois situations qu'on peut imaginer? Ben, il dit, ben, écoutez, on le laisse dans la prison, mais vous allez avoir encore, je lui dis, des gens qui vont brailler dans la rue. Si je le lâche, ça va être ridicule. Ben, je lui dis, si on coupait la chose en deux, mais prenez-le à côté de vous dans votre palais et montrez-le au balcon de votre immeuble et ça leur fera peut-être plaisir et puis ça partira comme ça. Alors, mais je lui dis, je ne vous donne aucun ordre, je ne vous donne, mettons, mon idée, c'est cela, et simplement, je raconterai demain au président de la République que j'ai donné un conseil, mais pas du tout une autorisation. C'est arrangé très bien.
Philippe Bas, même question. Votre souvenir le plus saillant de ces trois années passées auprès de Jacques Chirac?
Il y a deux très beaux souvenirs pour moi. C'est d'abord le succès diplomatique du président de la République qui a empêché la France d'entrer en guerre avec les États-Unis en Irak et qui a permis d'avoir un vote du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a fait que la position française a été celle de la communauté internationale. Un deuxième événement très fort, et je m'étonne qu'on l'oublie trop souvent, la plus importante réforme des retraites, celle qui a touché la fonction publique, c'est Jacques Chirac qui l'a faite, la même année d'ailleurs. Et nous avons eu jusqu'à 1 million de personnes dans la rue. Il n'y a pas eu de victimes, pas eu de dérives dans ces manifestations. Tout ça a été maîtrisé. Et Jacques Chirac n'a pas surjoué la réforme, il l'a conduite avec humilité. Mais c'est réellement la réforme la plus importante qu'on ait faite. Alors, il y a deux événements très douloureux pour Jacques Chirac lui-même, mais pour tous ceux qui l'accompagnaient. D'abord, c'est le 21 avril 2002. On aurait pu dire à Jacques Chirac...
Mais vous faisiez quoi le 21 avril 2002 ? Vous n'étiez pas encore secrétaire général ?
J'étais secrétaire général adjoint de l'Élysée.
Voilà, adjoint. Et vous l'avez appris comment ?
Le Pen
à quelle heure ?
Le Pen est au second tour. Je suis avec Jacques Chirac et les leaders de la droite et du centre. Et nous préparons leur intervention sur les plateaux de télévision contre Lionel Jospin. Les premières informations arrivent et disent « c'est Le Pen qui sera au second tour ». Et Jacques Chirac dit « non, ça n'est pas possible, laissez-nous travailler. Ne nous dérangez que quand vous aurez des résultats sérieux ». Il ne pouvait pas y croire. Et il a vécu ça, je dois dire que c'est un homme qui est très détendu et avec lequel il est très agréable de travailler. Mais au lieu de ressentir ça comme sa victoire annoncée et inéluctable, il a ressenti ça comme une catastrophe pour notre pays. De la même façon, l'échec de la Constitution européenne qui avait été préparée par Valéry Giscard d'Estaing au référendum a été pour lui quelque chose de très douloureux.
Alors, un mot ou une série de questions pour conclure cette émission autour du devenir des secrétaires généraux après leur départ de l'Élysée. Françoise Dreyfus, je me tourne vers vous. En général, que deviennent les secrétaires généraux? Je l'ai dit un peu dans l'introduction, il y en a qui font de la politique. C'est le cas de Philippe Bas, qui est devenu sénateur. Et c'est le cas aussi de Hubert Védrine, qui est devenu ministre temporairement. Certains sont devenus premiers ministres, on l'a dit. Mais à part cela, qu'est-ce qu'on devient après cette fonction?
Je pense que c'est très variable en fonction de l'âge, déjà, auquel on a eu la fonction. Lorsqu'on est fort jeune, effectivement, généralement, ce sont des carrières politiques. Mais il y en a un certain nombre qui n'ont absolument pas fait de carrière politique et qui sont rentrés soit dans leur corps, dans leur grand corps, soit qui ont fait autre chose. Mais je ne pense pas qu'il soit très facile de se détacher totalement de cet environnement. Et donc, on reste ou un très haut fonctionnaire ou on devient un homme politique.
Romain Bongibeau ?
Oui, bah effectivement, la plupart sont effectivement soit devenus ministres ou premiers ministres. Après, il y en a comme M. Pierre Brossolette qui ont choisi de ne pas faire de politique et de rester dans leur, on va dire, corps d'origine. Après, il y a une grande maison qui aime bien accueillir les secrétaires généraux, c'est la Caisse des dépôts et consignations, puisque nous avons donc M. Jouyet et M. Lemas qui se sont intervertis les postes, pour une petite anecdote. Et puis après, bah, effectivement, il y a la carrière politique. Certains sont devenus ministres, d'autres après le député ou sénateur encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que...
Et Claude-Pierre Brossolette, vous avez fait quoi, vous, après
ce secrétaire général ? Écoutez, c'était un petit peu accidentel. Le président du Crédit Lyonnais a été assassiné au mois de mai 76 sur les marches du Crédit Lyonnais. C'était quelqu'un que j'avais nommé. On lui avait forcé un peu la main, d'ailleurs. Il était le président de la Banque française du commerce extérieur. C'était une fonction paisible. Et je l'ai fourré au Crédit Lyonnais. Et il a été assassiné. Et le Crédit Lyonnais n'allait pas très bien. Monsieur Giscard d'Estaing a blagué, m'a dit, bah, lui, ils n'ont pas de chance, vos candidats, etc. Mais il faut m'en retrouver un autre. On a refait les listes, etc. Ça a duré. Mais j'ai dit, écoutez, on peut penser à Pleskov, on peut penser à d'autres gens, etc. Et alors, dans le journal Le Monde, on a fait une liste des gens qui pourraient être nommés au Crédit Lyonnais. Le président me dit, alors, vous avez insinué votre nom dans... Alors, je lui dis, écoutez, non, je n'avais pas du
tout
pensé.
Parce que votre nom figurait parmi cette liste.
Oui. Et alors, il me dit, bah, vous n'allez pas aller au Crédit Lyonnais. Bah, je lui dis, un jour, il faudra tout de même que je me recasse dans une fonction que je connais bien. Mais il m'a dit, mais enfin, vous allez aller à la Banque de France. Attendez que Clapier soit parti, et on vous enverra. Et alors, j'ai dit, oh, bon, la Banque de France. Il dit, comment? Entre la Banque de France et le Crédit Lyonnais? Ben, je dis, la Banque de France, quand j'étais directeur du Trésor, c'est moi qui la gouvernais. Bon, et qui disait ce qu'il fallait faire, monter les taux, baisser les taux, etc. C'était pas très... Donc, je sais très bien, et j'étais secrétaire général du Conseil National du Crédit, donc j'ai vécu à la Banque de France, c'est pas très gai. Alors, il m'a dit, vous aimeriez aller au Crédit Lyonnais? Ben, j'ai dit, oh, ben, oui, non, enfin, mais si vous pensez qu'il faut que j'y aille, j'irai. Et j'y suis allé, mais alors, on a pris encore un mois ou deux, parce que Jacques Chirac avait donné sa démission, et on a fait traîner, j'ai dit, aucun problème, je reste à l'Élysée, et M. Giscard d'Estaing, très gentiment, ensuite a dit, vraiment, on n'est pas pareil. Alors je lui ai dit, c'est parce que nous ne sommes pas pareils que nous nous entendons bien, parce que je vous complète un tout petit peu votre froideur, et que j'amène le maximum de ce que je sais, de ce que je pense, ça peut vous abuser ou pas, etc. Mais lui, en revanche, me disait pas toujours tout. Mais je voyais très bien, quand je lui disais quelque chose qui l'intéressait, il y avait un clin d'œil. Je dis, ah tiens, ça marquait. Quand je lui disais une chose qui l'intéressait pas...
Très rapidement, Philippe Bas, vous, votre sortie de l'Élysée, elle s'est faite dans quelles conditions? Enfin, votre départ du poste de secrétaire général?
Je suis entré au gouvernement.
Voilà.
Le président de la République me l'avait proposé dès 2002, en m'offrant le choix entre le gouvernement et le secrétariat général de l'Élysée. J'ai pris le secrétariat général de l'Élysée. Il me l'a proposé une seconde fois en 2004. J'ai refusé pour des raisons personnelles. Et puis, il me l'a reproposé en 2005. Et là, j'ai dit oui. Mais je voulais depuis longtemps entrer en politique. Il avait été question que je sois candidat aux élections législatives dès 2002. Et donc, j'ai fait ce choix pendant qu'il était temps de le faire. Et je dois dire avec beaucoup de bonheur.
Merci Philippe Bas, Françoise Dreyfus, Claude-Pierre Brossolette et Romain Bongibaud de nous avoir éclairés et de nous avoir expliqué qui est l'homme derrière cette fonction méconnue de secrétaire général de l'Élysée. C'est la fin de cet atelier du pouvoir, une émission de Vincent Martini et Thomas Vider, préparée par Cyril Baer, réalisée par Doria Zénine. À la technique aujourd'hui, Jean-Richard Dufour. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et nous réécouter également en podcast. La semaine prochaine, on se retrouve, on parle de quoi Vincent?
Eh bien nous parlerons de la dernière année des mandats présidentiels.
C'est noté, à la semaine prochaine, même heure, même antenne, 12h50 sur France Culture. Tout de suite, place à Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Très bon week-end à tous. Thank you.